des années 80 et Vader. 6 combats en plus d'un hommage posthume à Dino Bravo. TOW9, Saint-Pierre Charbonneau le 5 mai prochain dès 19h. Informations et billets au TOW8.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Les bars érotiques Le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW9, samedi le 5 mai au Saint-Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur TOW8.com ou encore à la billetterie au 3000 rue Viau à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la producer Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ma maison.
Ta maison.
Notre maison. Nous respirons le même air.
Utilisons la même eau.
Partageons la même nourriture.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces choses sécuritaires?
Et garder nos familles en santé dans nos maisons.
C'est toute une tâche.
Mais il existe des trucs simples.
Comme réfrigérer les restes de repas dans un délai de 2 heures.
Ou ventiler la maison.
Pour de plus amples renseignements sur la protection de votre santé à la maison, obtenez le guide en ligne à canadiensensante.gc.ca/santé à la maison ou à votre centre de santé. Un message d'intérêt public du gouvernement du Canada et de cette station.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW9 samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les meilleurs lutteurs québécois dont le champion TOW, Frankie the Mobster. Également Sylvain Grenier, Gruonix, Kevin Steen, Darko, El Generico, Eric Mastrocola, Sexy Eddie, Sanson, Handsome GF et bien d'autres. TOW9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain. Informations et billets au TOW.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Kuroz McGott, le meilleur gérant de la lutte au Québec, manager de Bugs Belmar, William Brady et Dos Moses. Vous écoutez Top of the World Radio, Ain't No Rest for the Wicked.
Went out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow.
Qu'est-ce qui se passe, Patricia, sur la page TOW Radio Show?
On a reçu des votes pour les lutteurs qu'on a nommés tantôt.
Okay.
Il y a Michael Elgin, que j'avais pas nommé la première fois, oui. Mais qui avait été... Ouais. Puis il est revenu une couple de fois.
Michael Elgin.
En 15 secondes.
Je sais juste pas si Michael Elgin est disponible cette date-là, mais c'est toujours un des bons lutteurs présentement là sur la scène indépendante. Fait ses débuts à Los Angeles bientôt, puis une des grosses stars montantes de la Ring of Honor, un gars de Toronto. Oshawa, en fait.
OK. Donc, les noms qui en sortent plus, on a à l'extrême Bugs Belmar, James Stone, Leon Saver, Surfer Mitch aussi. Puis on a eu des nouveaux noms de d'autres fédérations à travers la province. Il y a Damien Steele. Je sais qu'il
Il avait joué au baseball avec nous l'année
ouais,
passée.
Là, il vient
de l'Ottawa.
Ouais, non, c'est pas le même. Ça doit être Damien Steele de Québec.
De Québec. Ça doit être de la NSPW.
Je savais pas qu'il y en avait deux.
Il y a Giovanni.
Il y avait un nom qu'on pouvait dire. Là, pour qu'il y en a... OK. Steele Style.
Okay. Giovanni. Je me souviens de l'avoir vu lutter aussi.
Là, c'était TOW Extrême, ouais. Il avait perdu contre
Drew. Ouais. Après ça, il y a Matt Falco. Puis oui. Puis oui, qu'on a tendance à oublier. Moi, je le trouve drôle.
Puis oui, j'avais lutté contre...
on l'a vu déjà à quelques reprises à la TW.
Exactement.
OK, on a eu Hammer, Trevor Blair. C'est d'autres noms qui sont sortis sur le site.
C'est tout.
Donc, les gens... j'invite les auditeurs à continuer à voter. Puis on va faire un choix.
Il n'y avait pas un sondage aussi?
Ouais, ben le sondage que Bertrand nous avait mis, le
non,
sondage.
Non, pas ce sondage-là. Bref, il y a quelqu'un qui a mis un post sur la page TW Radio Show pour revenir sur l'incident qui s'est passé samedi dernier à la NCW. Je peux en parler rapidement. Ouais, il y a eu un incident, il y a eu une suspension suite à un incident. C'est que lors du combat par équipe qui opposait J Phenomenon à Cobra face au gars de Osmosis qui était là j'ai un blanc de mémoire justement Box Belmar et puis
Bruiser Blackwell.
Blackwell, justement. Lors de la fin du combat, il y a eu un chamaillage intense dans le ring et puis les agents de sécurité ont sauté dans le ring pour arrêter le tout. Les lutteurs ont frappé les agents de sécurité. Et puis, suite à ça, vu que j'avais les pouvoirs de faire ça, donc j'ai suspendu deux membres de chaque équipe pour le prochain gala qui aura lieu le 21 avril prochain. Donc, j'ai suspendu Pitbull Brando et Box Belmar, et puis Cobra et Mark Andrews. Donc, c'est juste ça. Là, il y a un sondage comme quoi, est-ce que vous êtes d'accord pour qui se prend, blablabla. Alors voilà, j'ai répondu. Salut Bertrand.
Salut.
Ça va?
Oui.
Je regardais ta liste que tu m'as donnée concernant les DVD, et puis je trouve qu'il en manque.
Ben, écoute, c'est toujours subjectif, hein. Il fallait limiter quand même la liste à un certain nombre. J'ai essayé d'y aller plus vers ceux où il y avait des documentaires, pas juste des matchs, où ce qu'on apprenait plus que juste des combats. Donc, où on avait aussi une partie, là, historique, puis une partie où ce qu'on peut apprendre des choses sur l'histoire de la lutte ou sur des grands personnages de l'histoire de la lutte, là.
OK, donc la liste que tu m'as donnée, on commence par le Rise and Fall of ECW and Forever Hardcore. Est-ce que ce sont deux DVD distincts?
Oui, c'est deux titres différents. Donc Rise and Fall of ECW, c'est le DVD que la WWE produit en étant propriétaire des images et des propriétés intellectuelles de la compagnie. Et Forever Hardcore, c'est un documentaire qui est sorti presque en même temps, qui a été tourné... pas longtemps avant un show réunion justement du qu'il y a eu avec la ECW, il y en a eu un pour la WWE, mais il y en a aussi un indépendant. Et c'est tous les gars qui étaient pas sous contrat, donc c'est un bon compagnon à celui de la WWE pour en apprendre plus sur tous ces gars-là, puis sur l'époque en question, parce que ECW des fois on s'en souvient où ça a été perverti au fil des années comme étant juste du sang et de la violence, mais c'était beaucoup plus que ça là. Si on retourne à cette époque-là, 93. Quand ECW a commencé à décoller.
On y croyait, hein?
Ben, on y croyait, mais c'est parce que si vous pensez qu'aujourd'hui la WWE est PG, la WWE était très, très, très PG à cette époque-là, là. Je veux dire, de Dunk le Clown en passant par tous les personnages plus loufoques les uns que les autres dans certains cas, là. Le Goon, puis le Ouh, et j'en passe, là. Il y en a toute une série.
Ouais, mais attends une minute, Dunk le Clown, c'est lui qui a influencé ta loge puis ta poche? Fait que ça marche encore?
Ouais, c'est
écoute, Steve Hayes aussi? Non?
Un clown qui mange une volée, ça peut toujours être intéressant, effectivement.
Ben, c'est ça qui va arriver à GF, TW.
C'est assez, là.
Il est arrivé avec un produit qui était polarisé, qui était nous contre tout le monde. Et de là, a créé plusieurs noms, plusieurs gars qui sont devenus des vedettes, qui ont tous été soit à la WCW ou à la WWE après tout ça. Puis si on compare les chiffres de la ECW de l'époque avec ceux de la TNA d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Là, la TNA, il y a quasiment plus personne qui achète ses pay-per-views. ECW avait quand même des buy rates qui étaient respectables. Donc, c'est très, très intéressant. Puis c'est bien fait et c'est quand même considérant que c'est pas fait juste par... C'est fait par la WWE, donc ça aurait pu prendre des tangentes où on réécrit l'histoire. C'est quand même bien fait, puis c'est à voir. Forever Hardcore, c'est moins connu, mais c'est intéressant parce que c'est à la même époque, mais tous ceux qui sont pas dans le DVD de la WWE parlent dans celui-là, donc de Terry Funk, Raven, Shane Douglas, etc. sont dans celui-là, donc c'est intéressant là-dessus.
Ensuite, on a Beyond the Mat, qui était un des meilleurs documentaires. Si on tasse Wrestling with Shadows...
C'est ça, avec Wrestling with Shadows, c'est un des premiers, c'est un qui a... Puis c'est juste avant que la lutte décolle et devienne très, très big, avec l'ère attitude. Puis là, on a derrière le rideau rideaux de la WWE, de la ECW, des shows indépendants, des gars qui essayent de percer pour devenir des grandes vedettes. C'est vraiment intéressant, puis c'est à voir si on n'a pas vu ça. Je veux dire, le speech de Paul Heyman juste avant
le premier pay-per-view.
Le pay-per-view d'ECW à lui seul mérite d'être vu, là. Comment, puis on peut voir jusqu'à quel point les gars étaient émotionnellement investis dans cette compagnie-là, puis c'est ça qui a souvent fait la différence pour ECW à l'époque, là. Donc c'est vraiment un documentaire à voir, là, si on l'a pas vu, puis à revoir si on l'a vu.
Sylvain, qui est en train de foncer les yeux, c'est l'année où il y a eu The Rock contre Mick Foley au Royal Rumble,
ouais.
Et qu'on voit ses enfants à pleurer sur le bord du ring, ouais, avec sa femme, là.
Effectivement.
Mais c'est mais il y avait beaucoup de noirceur dans cette.
Oui, c'est très dark, là.
Avec j'ai pas
Non, vas-y.
Ben c'est parce que moi je pense qu'ils ont tué tout le peu de fan base qui restait de Jake the Snake Roberts. Ils ont tué beaucoup d'illusions qu'on pouvait avoir. Puis je pense qu'ils ont montré un côté comme le film de Wrestler qui nous l'a montré maintenant.
Le côté noir.
Mais dans ce temps-là, il y a 15 ans, c'était beaucoup, c'était rapide.
Mais toi qui étais là à WWE, Sylvain, comment se fait-il que Vince McMahon a accepté qu'on filme backstage sans que ça soit produit par la WWE? C'est ce qui me surprend le plus dans ça. Même par Wrestling with Shadows avec Bret Hart, c'est filmé backstage à WWF.
Écoute,
comment il a pu faire accepter ça? Parce qu'il me semble que c'est pas Vince McMahon d'accepter qu'on vienne filmer dans sa cuisine, là.
Non, c'est un bon point. D'après moi, il devait en avoir recevoir dans la pocket d'un côté, mm-hmm. Ça c'est sûr.
Puis sûrement qu'ils n'ont pas du tout mettre ce qu'ils ont filmé.
Ouais, mais pourtant, ça l'avantage pas à WWE. Surtout que WWE s'en allait vers un clean progress où c'est que tout le monde allait être stérile puis clean. Puis. Mais je sais pas, j'ai de la misère avec ces vu que j'ai pas passé par là, puis j'en ai vu beaucoup là, la déchéance là. Mais des gars qui sont à TV encore que j'ai vu s'endormir dans le spaghetti là à catering. Ouais. Mais je trouve ça plate ce côté-là.
Ce qui est intéressant aussi avec Beyond the Mat, puis intéressant, puis en même temps, ça démontre à quel point il y a des gars qui ne s'arrêtent jamais. Terry Funk dans Beyond the Mat était déjà
ça soit vieux, 64e retraite.
Était déjà vieux et déjà était plus capable d'en donner autant, et pourtant jusqu'à l'an dernier, il luttait encore une fois de temps en temps.
Tu sais pourquoi qu'ils font pas un Bertrand, tu peux répondre à ça. Pourquoi qu'ils font pas un Beyond the Mat 2, mais tout le monde qui ont réussi après la lutte. Du monde qui ont des business, du monde qui ont réussi, qui ont utilisé leur nom pour faire
ça. Ça vend pas, ça. Ça vend pas. Ils veulent voir la déchéance, ils veulent voir le gars qui a pas rien placé puis qui
fait
du cook. S'il est la vigueur, il était encore millionnaire aujourd'hui, personne n'en aurait parlé autant, t'sais. C'est malheureux, mais c'est le même.
Donc,
une belle référence.
C'est pour ça que la bonne nouvelle GM est juste à la fin des nouvelles. OK.
T'sais, le petit écureuil qui fait du ski nautique, c'est cute, là, mais c'est tout.
Vas-y, Bertrand.
Et ensuite, ben on a ROH qui produisait un certain temps des DVD qui s'appelaient Secrets of the Ring. Mm-hmm. Et pour les gens à l'intérieur de la business, c'est des choses intéressantes à voir. Il y en a un avec Jim Cornette particulièrement qui est super intéressant. Puis c'est vraiment basic sur des affaires que des fois, là, tu sais, là, on est rendu à 14 prises, mais tu sais, c'est quoi la raison derrière chaque affaire, puis pourquoi on monte un combat d'une certaine façon, puis c'est quoi l'objectif, puis. Donc c'est vraiment à recommander. Puis il y a celui de Dusty Rhodes dans la même collection qui est vraiment super, parce que Dusty Rhodes prend son journal de 1987 puis il passe au travers de l'année. Il dit à tel jour on était à telle place, c'était ça les combats, on sait ça la gate, c'était bon, etc. Puis il raconte l'histoire de 1987.
Est-ce qu'il dit combien il faisait d'argent dans ce temps-là?
Il donne les chiffres.
Comment il fait faire en 1987 un Dusty Rhodes qui était une tête d'affiche là?
Il donne pas son salaire à lui. Mais il donne les maisons, là. Des fois, là, c'est hallucinant, là. Il y a le Crockett Promotion, parce que c'est la dernière année que Crockett est là avant que Ted Turner achète la compagnie puis ça devienne la WCW. Et, je veux dire, ils ont des maisons respectables, là, presque jusqu'à la fin de l'année, là. C'est l'année où ils vont acheter Bill Watts aussi puis la UWF. Donc, c'est plein de...
Fait comment vous pouvez faire Dusty Rhodes dans ce temps-là, Bertrand?
Comme salaire?
200 000?
Je sais pas, il a
150?
Dit on record que l'année qu'il a faite avec la WWE, avec le WrestleMania 6, etc., c'est sa meilleure année en argent dans la lutte. Fait que, veut pas, donc, malgré quand il était champion NWA et qu'il faisait 10% de la gate en faisant les tournées...
10% de la gate,
qu'il était booker, puis qu'il était la grosse vedette de Crockett, il a jamais fait autant d'argent dans une année que l'année qui était à WWE.
Dis-toi, Sylvain, Tandino Bravo a signé son contrat avec la WWF en 86. Il y avait un garanti de 250 000 $ puis il a fait jusque pas loin du million dans les premières ou deux années qu'il a fait avec tous les retours qu'il a eu puis tout ça. Donc, je sais pas comment évaluer Dusty Rhodes là-dedans, mais je te dirais que si on peut se baser, là, Dino Bravo, ça ressemble à ça.
Ensuite, Bertrand, on parle de Heroes of World Class Championship Wrestling.
Et là aussi, on a encore deux DVD sur World Class. Il y en a un indépendant qui a été fait avant que la famille Von Erich vende la collection à la WCW, qui est très intéressant. Et les deux sont compagnons, qui est un peu moins connu. On a Heroes of World Class Championship Wrestling, qui relate, on parle aux bookers, aux arbitres, aux gens de télévision. Puis on voit là, où les choses ont changé, parce que à un certain moment donné, World Class Championship Wrestling au Texas avec Fritz Von Erich était une compagnie là, du niveau de Crockett, de Bill Watts, de la WWF en expansion. C'était une compagnie montante et bourgeonnante qui ont inventé et présenté plein de choses. Là, Mikey, les rings, ces choses-là, c'est des choses qu'eux autres ont implantées. Donc, ça a été vraiment une époque intéressante. Je parlais de Gary Hart la semaine passée. Gary Hart était interviewé dans ces DVD-là avant son décès. C'est très, très, très intéressant. Puis celui de la WWE, qui est Triumph and Tragedy of World Class Championship Wrestling, qui là, a l'avantage d'avoir des combats complets, est aussi fort intéressant et fort bien fait. Puis on donne vraiment beaucoup de place aux gens de cette époque-là. Donc, ça nous donne une bonne image d'un territoire de l'époque de la lutte. Là. Donc, c'est très intéressant à voir pour les gens qui ne sont pas laissés aller. C'est à voir.
On parle de trois DVD de Ric Flair. Est-ce que les trois ont été faits dans le temps de la WCW ou seulement la WWE?
Les collections de la WWE, je veux dire, ça demeure Ric Flair. Et, bon, je veux dire, Ric Flair a trois DVD qui lui sont consacrés. Il y a deux volumes juste pour lui, puis un volume sur les Four Horsemen. Il y a des documentaires dans les trois. On en apprend beaucoup, on en voit beaucoup. Il y a les meilleurs matchs de Ric Flair, des Four Horsemen. Je veux dire, ça demeure dans les musts. Là, faut voir ça pour apprécier la carrière de Ric Flair. Pis
dans les trois, lequel tu nous conseilles?
Dans les trois, le meilleur, ben, je dirais probablement que le premier, là, The Ultimate Collection, c'est probablement le meilleur là, des trois, là, parce que c'est le premier. Après ça, dans le deuxième, dans le troisième, il y en a un petit peu moins, mais bien sûr, celui sur les Four Horsemen, là, si on veut voir les factions, puis la création des Horsemen, puis il y a des entrevues là-dedans qui sont assez phénoménales, c'est aussi très bon. Là.
On a entendu Sylvain faire un bruit en parlant des Four Horsemen. Je pense que c'est Arn Anderson, je pense, ton préféré là-dedans, ça se peut-tu?
Ouais,
c'est quoi l'histoire avec Arn, Sylvain?
Ben, c'est à cause de lui que je suis plus à WWE.
OK.
À cause de lui ou à cause de toi?
À cause de moi, mais à cause de lui, c'est moi qui réponds. Mais...
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu peux-tu nous le conter un peu?
Ah, je pense que... Ouais. Il est rapide. Je veux pas prendre le temps de Bertrand Hébert, mais problème d'ego. Il a un gros problème de jalousie. Il aime sa clique, puis il accepte pas les autres. Puis... je pense que c'est tout simplement un imbécile puis un lèche-cul. Puis Vince le sait, Pat Patterson le sait. Puis il est encore là parce qu'il fait... Triple H fait qu'est-ce qu'il veut avec lui. Puis ça va être une des personnes qui me le plus nuit dans mon histoire à la lutte. Là. Si je suis plus là, c'est à cause de lui.
Ça serait une bonne histoire dans ton futur livre sur
ta dernière année. Je savais pas ce côté-là, Sylvain.
J'en ai jamais vraiment parlé parce que c'est un imbécile. Là.
Bertrand, au numéro 6, Chris Jericho.
Ouais, le DVD de Chris Jericho est certainement un des meilleurs documentaires que la WWE a produit, là, avec en plus la collection de matchs de Jericho, de Smoky Mountain jusqu'à la WWE en passant par la WCW puis la ECW. Là, vraiment, on a toute la panoplie. Et le documentaire est excellent. On parle de toute sa carrière, c'est vraiment bien fait. On en apprend beaucoup. C'est quand même dans les derniers, là, la WWE a été là, vraiment, là, si on compare avec il y a quelques années, là, ces documentaires sont de plus en plus intéressants et de mieux en mieux faits.
C'est dans celui-là qu'il raconte que J.C. W. Ventura lui a dit, si tu veux être un lutteur professionnel, va te chercher un diplôme avant, puis ensuite, investis-toi dans la lutte.
Oh, oui, non, c'est ça, il y a beaucoup d'histoires, les photos personnelles de Jericho. On a vraiment là, la panoplie là, de sa carrière jusqu'à ce point-là dans le temps. Là, donc, c'est C'est vraiment bien fait.
Là. Attends une seconde, Bertrand. On a Sylvain Grenier qui quitte les studios, vu que c'est la dernière.
On est comme à tout le monde en parle. On est comme à tout le monde en parle. Il y en a qui quittent durant l'émission.
C'est la dernière émission de la saison, puis tu dis même pas salut, tu pars demain.
Ben, j'aurais pu vous appeler tantôt.
Ben, parce que là, on est en direct, puis j'aimerais ça te remercier d'avoir participé au projet.
Merci tout le monde. Ben oui, j'ai une grosse journée demain. Alors, je vais aller me coucher pour être en forme, puis être en forme pour mon combat.
Faut que t'épiles le chest de Nick Blade.
De ben du monde.
Mais merci beaucoup d'avoir participé.
Merci à vous autres d'être venus, puis on espère qu'on va être de retour l'année prochaine.
Après le 5 mai.
Si je peux me permettre, pendant que t'es là, Sylvain, mon meilleur moment de la saison, puis je le dis parce que t'es là, c'était l'entrevue que moi et toi on a faite avec Pat Patterson, qui a été, à mon avis, le highlight de la saison.
Pat avec deux bouteilles de vin, là, j'ai vraiment cher.
J'ai adoré. Pat a été, bon, il s'en rendait peut-être pas compte, mais il était bien généreux de son temps. J'ai adoré faire cette entrevue-là avec toi. Merci, cool. Sylvain, pour ça.
Ça fait plaisir.
Bonne nuit,
tout le monde.
Bye. Tu peux changer de place maintenant.
Enfin, avoir une place.
Vas-y.
Attention, pas ici avec la case d'écoute.
Donc, Bertrand, pendant que tout le monde bouge un petit peu en studio, Chris Jericho, qui avait été très, très, très déçu, justement, quand il avait été pour la première fois dans son école de lutte.
Ouais, mais c'est sûr, écoute...
On fait le saut quand on sait pas à quoi s'attendre.
Ben, c'est ça, écoutez, Stampede, là, c'est un beau nom sur papier, mais comme souvent beaucoup d'écoles de lutte, ça se termine que c'est le finissant de l'année d'avant qui donne plus d'écho que le supposé prof, comme là, c'était supposé être la famille Hart, mais plus souvent qu'autrement, c'était d'autres personnes qui donnaient les cours. C'est pour ça, d'ailleurs, que Lance Storm, à son école aujourd'hui, qui a été entraîné avec Jericho, c'est vraiment spécifié qu'il va s'entraîner avec vous autres dans le ring. Là. Il y aura pas, ça sera pas 8 substituts, il va vraiment lutter avec vous autres, puis il va vraiment travailler dans le ring avec ses élèves. Fait que c'est souvent des choses qui sont arrivées, là, je veux dire, puis encore là, Jericho et Hart ont été chanceux, eux autres, ils ont eu un vrai entraînement quand même, mais je sais qu'il y a une histoire là, de l'Undertaker qui s'est fait voler son argent par Buzz Sawyer, qui est un lutteur du Texas dans le temps, qui avait promis de l'entraîner, puis qu'il l'a pas entraîné, puis ça a été long avant que Holloway, l'Undertaker, ça a percé la business parce que justement, il y avait du monde qui profitait de lui, comme souvent les gens dans la business de cette époque-là apprenaient à profiter du premier venu ou du premier mark, comme ils appelaient, pour essayer de profiter de leur innocence, si on veut. Là.
Sur le DVD, Bertrand, d'ailleurs, il y a un match avec les Jericho et Lance Storm en équipe, les Thrill Seekers, et je me rappelle d'avoir vu un vieil Wrestling Observer où ce Dave Meltzer avait vu un match dans ces années-là, et il avait passé le commentaire en disant, je pense que ces deux-là, ils ont un bel avenir. Je pense qu'il s'est pas trop trompé. Lance Storm, Chris Jericho, c'est devenu deux excellents lutteurs.
Là, Handsome GF, là, si t'arrêtes pas d'être tannant, là, tu vas aller l'autre bord sur le divan.
Ok, parfait.
Arrête de jouer avec la lampe et le micro. On entend ça en ondes.
Ben non, personne n'a rien entendu. Là.
Ok. Bertrand, une bonne sortie. Je sais pas s'il va y avoir suite, parce qu'on peut pas vraiment revoir d'autres rivalités aussi intenses qu'il a été entre Bret Hart et Shawn Michaels.
Je pense que s'il y a une suite dans la série des grandes rivalités, il parlait d'en faire un avec le Rock et Steve Austin, mais celui avec Shawn et Bret demeure vraiment historiquement un morceau important d'histoire, point à la ligne. C'est un des combats les plus importants de l'histoire de la lutte. C'est un moment historique pour la WWE qui était dans une situation précaire puis qui est devenu ensuite le monstre qu'elle est aujourd'hui, qui est pratiquement indestructible, une compagnie billionnaire à la bourse, etc. Tout ça part de ce point-là dans le temps. Et là, on a les deux qui sont là live avec Jim Ross. Qui de mieux pour nous en parler? Puis on nous explique la rivalité entre les deux hommes, pas juste le match de Montréal, mais tout ce qui a conduit au match de Montréal, puis tout ce qui a suivi le match de Montréal, c'est vraiment là.
On en avait parlé ici d'ailleurs quand c'était sorti, Bertrand, et si récemment justement les ventes de DVD de la WWE sont sorties, et malheureusement le DVD a pas connu les ventes espéré par la WWE. Je pense que c'est pour ça que ça l'a mis un hold sur les d'autres DVD du même type.
Je pense que c'est peut-être quelque chose qui se rapproche plus de ce que les gens indépendants font. Comme
oui, les shows d'interview.
Rapproche plus peut-être d'un public plus limité comme le monsieur, madame, tout le monde de la WWE.
Oui, mais peut-être la réconciliation entre les deux a fait que ça avait moins l'impact.
Peut-être.
Moi, c'est ce que je pense.
Il y a peut-être des gens aussi qui voulaient juste...
Non plus, là.
peut-être il y a des gens qui voulaient juste pas connaître l'histoire et aimaient mieux se rappeler de tout ce que ça l'a donné comme conséquence bonne ou mauvaise par la suite. Bref, écoute, moi puis Bertrand, justement, on en parle en long et en large dans notre livre sur l'histoire de l'Auto Québec.
Excellent, va falloir accélérer le tout. On parle de Ricky Steamboat.
Ricky Steamboat, un autre super bon DVD, plusieurs matchs d'un excellent lutteur que faut découvrir Ricky Steamboat si on le connaît pas assez, puis un documentaire aussi encore là très bien fait où ce qu'on en apprend beaucoup sur les débuts de carrière de Ricky Steamboat et ses origines jusqu'à sa retraite malheureuse, beaucoup trop rapide d'ailleurs. Là.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, il y a une blessure au dos qui a tout simplement mis fin à sa carrière de façon...
Excuse-moi, Dynamite Kid qu'on parle?
Non, on parle de Ricky Steamboat.
Pourquoi d'abord il a réussi à faire un combat comme s'il avait encore 17 ans?
C'est un peu comme Steve Austin en ce moment, là, je veux dire, qui se dit, moi, si je revenais pour un match ou deux, comme je serais encore capable. Puis après, on parle de plusieurs années de retraite. Puis après ça, il a recommencé à donner des cours de lutte, puis j'ai l'impression qu'il a vu jusqu'à quel point il pouvait pousser la machine. Et je pense qu'on a été chanceux que Ricky Steamboat se donne la chance, mais si on voit, tu sais, il y a eu l'angle après ça avec le Nexus, puis ça a mal tourné après ça pour lui. Fait qu'il restait pas effectivement beaucoup de bumps, là. Souvent ils disent, les lutteurs, on a des bumps sur notre carte de bumps, puis quand il n'y a plus de punch pour faire des trous, c'est fini, là. Ben, c'est un peu ça pour Ricky Steamboat. Il restait pas énormément, mais il nous est revenu quelques années plus tard là, avec un dos qui avait eu le temps de récupérer un peu, puis il a quand même pu nous donner des bons matchs. Là. Mais le DVD est vraiment, là, c'est un must là, pour les gens qui doivent découvrir Ricky Steamboat, qui savent qu'ils l'ont pas vu lutter là, quand il était jeune, là, comme moi. C'est à voir. Là.
Bertrand, avant de parler du prochain DVD, t'as mis une vidéo il y a de ça deux semaines concernant la fameuse blessure au Dynamite Kid.
Ouais.
Mon stream d'ordinateur était très très lent, puis j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé au juste.
En le fond, il s'est rien passé. Il a simplement enjambé Orton au sol et le dos a lâché, tout simplement.
Une blessure niaiseuse comme ça, clic.
Ben, j'écoutais récemment Shane Helms parler de sa blessure avant d'être opéré dans le dos, puis il est pas capable de dire à quel moment ça a été le point critique. C'est une accumulation, puis il arrive à un moment donné, ça fait juste lâcher. Ça peut être sur une grosse bombe ou une bombe standard, ou comme dans Dynamite Kid, il courait dans le ring, puis il s'effondre littéralement. Même là, on voit là, tout de suite là, que c'est pas normal. Là. Il tombe comme une feuille molle. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien, c'est fini.
C'est à partir de ce moment-là qu'il est tombé en chaise roulante?
Non, il va revenir à la lutte après ça. Arrêt ça de Mania 3, là, c'est après la blessure. Là.
Ah, okay.
Mais il a été longtemps arrêté à partir de ce moment-là, puis après ça, il a lutté sur du temps emprunté sur son dos par la suite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il aurait fallu qu'à ce moment-là, il prenne sa retraite. Et il a continué à lutter longtemps, même après être parti de la WWE. Il a lutté au Japon, il est retourné à Calgary, il était le booker pour Stampede Wrestling. Mais c'est ça, il a lutté sur du temps emprunté, puis il n'y a pas eu aucun médecin comme Edge pour lui dire « là, c'est fini là, là ». Puis il a lutté jusqu'à temps d'être en chaise roulante. Là.
Donc, son DVD est « Lipstick and Dynamite ».
Ouais, Lipstick and Dynamite, on a parlé souvent des NCW Femmes Fatales puis de la lutte féminine. Lipstick and Dynamite, ça parle, c'est un documentaire qui parle de la lutte dans le temps des années 60 et 50. Et c'est l'époque de Billy Wolf, de Mildred Burke, qui était la première grande championne, de la Fabulous Moolah, de Mae Young, et de tout un paquet de filles qui sont à découvrir, qui sont vraiment des pionnières du monde de la lutte. Et c'est pas le meilleur documentaire, mais c'est quand même super intéressant. Beaucoup d'informations. Si vous aimez la lutte féminine, NCW Femme Fatale, c'est à voir.
Je suis surpris du DVD que tu me parles là en ce moment, Brock Lesnar.
Ben, celui de Brock Lesnar, il est tout petit, ce DVD-là. Par contre, moi, quand je suis tombé sur une copie à un moment donné, il y a une couple d'années déjà, c'est incroyable les combats qu'il y a là-dessus. Et comment. Et là, comme Brock Lesnar revient, je pouvais pas m'empêcher de le passer sous silence. C'est à voir. Quand j'étais à Plattsburgh il n'y a pas longtemps, il y en avait des piles et des piles, puis il était 5$. Si vous tombez là-dessus, profitez-en. Il y a des très bons matchs, puis vous allez apprécier encore plus son retour actuel.
On voit entre autres son match avec le Big Show où ce que le ring s'effondre.
Au SmackDown.
Gimmick qui ont repris dernièrement là, mais ouais.
Il y avait des bons matchs avec le Big Show là, c'est pas pour dire là, c'est vraiment là. Puis le match avec le Rock à SummerSlam et là-dessus, c'est vraiment de toute beauté. Là.
Le build-up il était bon du SummerSlam entre Lesnar et The Rock, même si on savait que Lesnar allait gagner, le build-up était bon.
Le long de ce match là est hors de ce monde là, les deux sont à un pic de performance, c'est vraiment hallucinant.
Eddie Guerrero qui a triché la mort et volé la vie.
Ouais, ben c'est ça, c'est un peu ironique comme DVD, mais c'est le premier là qui ont sorti. C'est intéressant l'histoire de Eddie qui tu sais, c'est vraiment ça là, il a battu la mort pour voler un peu plus de vie, ça prend encore plus son sens aujourd'hui. Et il y a plusieurs combats de Eddie super intéressants. Particulièrement un de mes favoris qui date de pré-WCW, c'est le combat à When Worlds Collide pour AAA avec son partenaire Art Barr contre Elio Del Santo. C'est vraiment un combat spectaculaire en équipe de toute beauté avec les deux pères de la fin, ils sont rasés la tête. C'est vraiment un super combat. Donc, je recommande ça à tout le monde, c'est à voir.
Effectivement, Bertrand, tout un combat.
La vie de Monsieur Perfect.
Oui, ben c'est ça, Mr. Perfect, un autre, on est dans les tragédies, si on veut ça, au moins un peu
plus.
Par contre, c'est tellement des personnages importants, puis des lutteurs, dans le cas de Mr. Perfect, totalement hors de ce monde. On l'apprécie encore plus aujourd'hui. On voit un peu des fois, en regardant Dolph Ziggler, des flashs de Mr. Perfect dans son exécution, son agilité, la façon de bouger. Mr. Perfect, ben Kurt Hennig, c'est un prodige. La lutte, c'est une deuxième génération de lutteurs, c'est vraiment là. Et je veux dire, c'est dommage même que son fils aujourd'hui est un peu encarcané dans cette puis qu'on lui donne pas la chance de s'épanouir puis d'utiliser son nom de famille puis d'avancer avec ça. Mais le DVD est intéressant. Toutes les vignettes de Mr. Perfect, c'est une des affaires sûrement que tous les gens des années 80 se souviennent, quand il y avait les vignettes, puis Mr. Perfect réussissait parfaitement.
Ah oui.
Au football, au hockey.
Au bowling. Au golf.
Ils sont tous là. On a aussi le behind the scene de ces vignettes-là avec Bruce Pritchard qu'ils avaient filmé.
Quand il savait lancer le ballon de football à lui-même, hein, c'est
C'est totalement absurde, mais en même temps, tellement, là, moi, je me souviens toujours, là, la phrase qu'il disait tout le temps, c'est Hulk Hogan, you can do that, là. Moi, je trouvais ça super bon, là.
Bertrand, est-ce que tu regardes les petits vidéoclips, Are You Serious?
Un petit peu, une fois de temps en temps.
Parce qu'il y avait une vidéo avec Mr. Perfect pis Scott Hall, dans une shape, plus que celle qu'il y a en Sam GF en ce moment.
C'est fort possible.
Ouais, je t'enverrai le lien.
Ben, à l'époque, là, ils ont été champions par équipe de la AWA, Scott Hall et Mr. Perfect.
Brian Pillman.
Brian Pillman de Loose Cannon. C'est un personnage intéressant. Là, ça fait déjà plusieurs années qu'il est décédé. Mais il y avait une gimmick totalement hors du commun. Je veux dire, ce gars-là a réussi à se faire une vraie release par la WCW pour vendre son histoire qu'il était vraiment congédié, pour jouer la carte puis aller savoir un plus gros contrat que la WWE, alors que c'était supposément lui puis Bischoff étaient supposément ensemble là-dedans, puis finalement il a joué un tour à Bischoff, il a signé avec la WWE, c'est-à-dire il a participé à des événements de la ECW au travers de tout ça. C'était un personnage totalement hors de ce monde pour l'époque. Vraiment, là, il avait décidé, lui, de faire sa marque sur la lutte. Malheureusement, il a été emporté trop vite. Il a eu une carrière en équipe avec Steve Austin. À l'époque, là, les Hollywood Blondes étaient vraiment une équipe hors du commun. On voyait là, vraiment qu'il y avait quelque chose de spécial là. Donc, c'est encore quelqu'un qui nous a été enlevé trop tôt. Là, puis c'est intéressant, là, si on n'a pas vécu l'époque de Brian Pillman. Je veux dire, il n'y a rien qu'il n'a pas fait là, à la ECW, c'était hallucinant là, quand il a apparu là, parce que la foule le savait qu'il était supposément congédié. C'est vraiment quelque chose qui est à voir et à découvrir là, si on n'est pas trop courant là.
J'ai une image qui me revient, Bertrand. Une semaine après sa mort, il y a eu un broadcast live avec sa femme. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était travaillé?
On est à l'époque, on est en pleine guerre du lundi soir, hein? Fait que elle voulait passer un message aux boys ou à la lutte de faire attention comme puis de pas pas vivre en brûlant la chandelle par les deux bouts. Je pense qu'en bout de ligne, je pense pas que ce message-là a passé. Ça a passé plus pour une exploitation de la veuve.
Exactement.
La famille Pellman a été longtemps... il y a eu des shows bénéfices à toutes les années, tous les amis de Brian Pillman. Il y avait des lutteurs de la ECW, de la WCW puis de la WWE qui participaient à ces événements-là pour financer les études puis la vie de toute la famille Pillman, parce que Pillman avait plusieurs enfants, même un enfant qu'il n'a jamais connu parce que sa femme était enceinte. Fait que ça a duré plusieurs années.
Ça n'existe plus, hein?
Ça n'existe plus, non. Elle s'est remariée, la dame avec...
Sacripant.
Mélanie, si je me trompe pas, hein?
Ouais, Mélanie. Puis peut-être un petit fait intéressant. Mélanie Pillman, c'est l'ex-blonde du Ultimate Warrior. Et Brian Pillman, c'était un homme à femme parce que...
Elle a pas pogné les plus stables qu'il y avait, hein?
Non, c'est ça. Mais il pouvait avoir la femme qu'il voulait. C'est apparemment Brian Pillman... poignet avec toutes les femmes.
Un peu comme Anson GF.
C'est un peu comme Anson GF.
Ou Sylvain Grenier.
Ouais, peut-être plus comme Sylvain.
Burn, c'est bien chien, ça! Pas comme moi, parce que de ce temps-ci, à part la grippe, je pense pas grand-chose. OK, on termine avec le I Am From Hollywood, Andy Kaufman.
Du personnage un peu... hors de contrôle, hors script, qui respecte pas les conventions de Brian Pillman. L'original, ben, c'est Andy Kaufman. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle I'm From Hollywood d'Andy Kaufman, avec toutes les images qu'il a faites à Memphis, toutes les entrevues, toutes plus incroyables les unes que les autres, ce DVD-là. Et de l'autre, c'est un DVD double. De l'autre côté, il y a un documentaire qui a été fait par Kaufman lui-même, qui s'appelle My Breakfast with Blassie, où il va parler de lutte au restaurant avec le restaurant dans lequel Kaufman travaillait comme plongeur on the side, juste pour son plaisir personnel. Donc, Annie Kaufman, un personnage totalement hors du commun, quelqu'un qui mériterait de loin beaucoup plus qu'un Drew Carey, une bague de Hall of Fame de la WWE pour l'impact qu'il y a eu en termes d'entertainment, puis d'amener une certaine reconnaissance, puis une visibilité à la lutte qu'elle avait pas. Je veux dire, ils se sont ramassés à David Letterman, puis Jerry Lawler était, dans le fond, une star régionale à ce moment-là. Si Vince Jr. aurait été en charge, il n'aurait pas fait comme son père, puis dire non à utiliser Andy Kaufman, qui a d'abord tenté de travailler pour la WWF à l'époque. Mais c'est ça. Donc, c'est quelque chose à voir. Là. Des fois, on envoie plein de petites images sur YouTube où on a vu le film avec Jim Carrey.
Man on the Moon.
L'original, c'est I'm From Hollywood par Andy Kaufman.
D'ailleurs, quelqu'un la semaine passée me demandait si on avait lu ou si j'avais lu le livre de Jerry the King Lawler. Et en fait, il en parle, là, mais vraiment exhaustivement. Là.
Le champagne est tout ouvert.
Bertrand, à 23 minutes de la fin de l'émission, on a entendu le champagne s'est ouvert ici en studio. Écoute, ça a été, ça a fait un beau bruit. J'aime ça, ce bruit-là.
Ouais. Un beau dégât.
Désolé, Bertrand.
Alors, Bertrand, oui, c'est ça. Donc, dans le livre de Jerry Lawler, on en parle. Il en parle exhaustivement. Tu m'as-tu copié ça, ces DVD-là, Bertrand?
Hein?
Tu m'as-tu copié ça, ce DVD-là?
Andy Kaufman?
Oui.
Non.
Mets ça sur ta to-do list.
Hey, on parle pas de piratage de DVD sur les ondes du TW Radio Show. Bertrand, il y a une vidéo qui circule encore sur YouTube concernant le passage d'Andy Kaufman et Jerry Lawler.
Ouais, c'est des classiques. Puis il y a une biographie d'Andy Kaufman écrite par Bob Zimuda, son meilleur ami, qui est vraiment aussi super intéressante, et où on parle, il y a une bonne grosse section sur la partie lutte de l'histoire d'Andy Kaufman. C'est un livre que j'ai pas parlé la semaine passée, mais ça peut être intéressant là, pour les maniaques d'aller plus loin, puis creuser, puis d'apprendre des choses.
Ben Bertrand, je te remercie beaucoup pour cette chronique d'aujourd'hui, puis je te remercie de t'avoir joint à l'équipe TOW Radio Show. Tard, mais quand même, ça a été très, 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 très instructif.
Ça m'a fait plaisir, puis en autant qu'on ait tous eu du plaisir, puis on en a appris des choses, tant mieux.
Oui, ben écoute, je te remercie d'avoir donné du temps. Écoute, c'était 30 minutes à chaque semaine pendant pratiquement 2 mois sans arrêt. Donc, je te remercie d'avoir été présent.
Ben, c'est moi qui te remercie pour l'opportunité. Puis, bravo à tout le monde.
Mon Bert.
On va prendre un verre de champagne pour toi.
Ben, on va prendre un verre à ta santé.
Excellent.
Merci, Bertrand.
Ou deux. Bye-bye.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show. En compagnie de l'arbitre Patrice Maltais, ses collaborateurs Marc Blondin, Sylvain Grenier, Patrick Laprade et Patricia Malloy.
Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et sans frais, le 1-866-895-3142.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9, samedi le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les vedettes américaines Chris Masters, Jimmy Hart, le géron le plus coloré des années 80 et Vader. 6 combats en plus d'un hommage posthume à Dino Bravo. TOW 9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain dès 19h. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Les bars érotiques Le Garage de Mirabel et le Pink Paradise de Laval présentent l'événement TOW 9, samedi le 5 mai au Centre Pierre Charbonneau. Billets disponibles sur towlutte.com ou encore à la billetterie au 3000 rue Viau à Montréal. Assistez au retour de Vader, Chris Masters et de la production Jimmy Hart qui secondera Sylvain Grenier dans son combat face à Kevin Steen. 6 combats au programme, dont un premier test pour le champion Frankie the Mobster. C'est samedi le 5 mai. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Ma maison.
Ta maison.
Notre maison. Nous respirons le même air.
Utilisons la même eau.
Partageons la même nourriture.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces choses sécuritaires?
Et garder nos familles en santé dans nos maisons.
C'est toute une tâche.
Mais il existe des trucs simples.
Comme réfrigérer les restes de repas dans un délai de 2 heures.
Ou ventiler la maison.
Pour de plus amples renseignements sur la protection de votre santé à la maison, obtenez le guide en ligne à canadiensensante.gc.ca/santé-à-la-maison ou à votre centre de santé. Un message d'intérêt public du gouvernement du Canada et de cette station.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
La lutte TOW est de retour à Montréal pour son événement TOW 9, samedi le 5 mai prochain, au Centre Pierre Charbonneau. C'est le retour de la vraie lutte avec les meilleurs lutteurs québécois, dont le champion TOW, Frankie the Mobster. Également Sylvain Grenier, Drew Onyx, Kevin Steen, Darko, El Generico, Eric Mastrocola, Sexy Eddie, Sanson, Handsome GF et bien d'autres. TOW 9, Centre Pierre Charbonneau le 5 mai prochain. Informations et billets au towlutte.com. Soyez-y, mesdames, messieurs.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Salut, ici Patrick Laprade. Vous écoutez TOW Radio Show.
Qu'est-ce que tu pensais, Pat?
Fallait que tu le mettes avant que la saison se termine, hein?
C'est la meilleure.
C'est bien
une bonification de show. Moi non plus, je peux pas attendre d'être sur la route encore.
Ça s'en vient, Pat, ça s'en vient.
On fera pas de la musique, mais on va faire de la lutte, puis Handsome GF, c'est pas mon ami.
Pourquoi?
Parce que j'ai décidé ça. En fait, t'es tout fait en onde.
Ça a pas paru, Pat.
Non, hein? Excellent.
Donc,
qu'est-ce qui se passe avec la TOW sur la route cette année?
Notre prochain show, TOW 9, le 5 mai, à Montréal, au Centre Pierre Charbonneau. Ensuite, on commence notre tournée estivale. Donc, le 29 juin, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Le lendemain, le 30 juin, au Centre Rousseau à Saint-Jean-Port-Joli. Le 14 juillet, au Beach Club Pointe-Calumet.
Oh yeah! Oh yeah, le Beach Club!
Les belles valeurs!
Qu'on n'a pas encore trouvé le nom, mais ça va se faire d'ici...
Tabassage à la plage, je vous le dis, c'est le meilleur nom.
Mm-hmm. Moi, j'aimais bien, c'était quoi, Douchebag Mania?
Non, les belles valeurs en folie.
Les belles valeurs, puis Marc se demande toujours si dans le speedo, la patate, on la met en arrière ou en avant. Voilà.
Ensuite, le 27 juillet, on est au Saguenay, à la zone portuaire de Chicoutimi.
Des très bons souvenirs de Chicoutimi, on en parlait d'ailleurs hors d'onde. Des blackouts et...
Je sais pas de quoi tu parles.
Je sais pas non plus.
Il a manqué l'électricité, Patrice.
C'était le BAO.
Le OAB, tellement on l'a viré à l'envers.
Ils ont été très généreux avec nous, soit dit en passant.
Ensuite, le lendemain, on va être à Saint-André-Avelin, au Festival Rodéo.
Ça, c'est incroyable, là. On part de Chicoutimi.
C'est incroyable,
ouais. À Saint-André-Avelin,
ouais,
là.
C'est un 7 heures de route.
On dormira pas de la nuit, ça va être fou, là.
Ça va être fou. Je pense qu'on va avoir la meilleure été de notre vie avec la TOW. Ça va être vraiment plaisant.
Ensuite, on recommence TOW 10. Ben, on continue, je veux dire, dans les shows d'envergure. TOW 10 au Centre Pierre-Charbonneau à Montréal.
Quelle date?
Le 21 septembre. Après ça, le lendemain, on va être à Sherbrooke, au Centre de foire de Sherbrooke. Et on va avoir TOW 11 le 28 décembre. Donc ça, c'est les dates de bouquet.
À Charbonneau, TOW 11.
TOW 11, excuse-moi Pat. TOW 11 à Montréal, au Saint-Pierre-Charbonneau.
Excuse-moi Pat.
Non, mais c'est correct. Je demande le respect.
C'est... Bon, ça, c'est les shows qu'on a de bouquet. Mais on travaille dur, puis on essaie d'en booker encore d'autres d'ici la fin de l'année. Là.
Si je peux rassurer les fans, Handsome GF va faire partie de tous
de
ces shows.
De tous les shows.
Pour vrai? L'an passé, t'en as manqué un.
C'est ce qu'il dit là.
Ouais. Non, j'ai confirmé à Marc que je vais faire partie de tous les shows de la TOW.
Wow!
Mais Patrice, TOW 9, il y a quelques éléments qu'on n'a pas parlé tantôt.
Tout d'abord, je vais lever mon verre, vu qu'on a tous un verre plein.
Ben oui.
Vous pouvez regarder ça sur les webcams, si vous voulez.
Ouais.
Je filmerai pas, mais santé tout le monde.
Santé, un petit verre de champagne de la société de Patricia.
Qui nous a brûlé le punch, mais vu que c'est ta bouteille, tu pouvais brûler le punch.
Et on prend une gorgée à tous les fans qui nous ont écoutés pendant toute la saison aussi, pendant les 26 semaines.
Ils sont avec Roger. Roger que je salue d'ailleurs. Exactement, on a fait le tour des matchs au cours de l'émission aujourd'hui. Je voulais mentionner, j'avais oublié hors d'onde, que l'équipe TDT sera accompagnée de Joey Soprano, qui est un excellent gérant.
Oui.
Puis quand on parle de gérant, on peut pas passer sous silence le gérant invité.
Ben oui. Ben oui, l'un des plus gros noms sur la carte, même si c'est pas lui qui va lutter. Oui, on sait qu'il y a toi aussi, Handsome GF. Jimmy, The Mouth of the South, Jimmy Hart, qui a été l'un des gérants peut-être les plus connus, principalement, là, dans les années 80-90 à la WWE. VF, ensuite à la WCW, hein, il était là lors la signature du contrat d'Hulk Hogan avec la WCW en 94. Et un fait qui est très cocasse avec Jimmy Hart, c'est qu'il y a loufoque comme Patricia qui viennent d'échapper quelque chose. Jimmy Hart a géré plusieurs Québécois à la WWF. Pour une raison que j'ignore encore, est-ce que c'était...
C'est ma question que j'allais te poser. Est-ce qu'il y avait vraiment une raison pour laquelle Jimmy Hart était affecté au Québec?
Écoute, Jimmy Hart a géré les Rougeaux quand ils ont tourné heel. Il a géré Dino Bravo après que celui-ci là soit mis en équipe avec Greg the Hammer Valentine. Ensuite, il a géré aussi le Monty, Jacques Rougeau en simple. Et là, à TOW9, va manager Sylvain Grenier. Et c'est une question, écoute, je vais avoir l'opportunité de jaser avec Jimmy Hart en fin de semaine prochaine à Toronto Wrestle Reunion. Et c'est une des questions que je veux lui demander. Parce que justement, c'est-tu un hasard? C'est-tu juste une coïncidence qu'il a toujours, qu'il a managé, qu'il a géré plusieurs Québécois. Il n'a pas managé Rick Martel, non.
Il faut que je te donne ça. Ça vient de Marc Blondin. Il m'a dit, il faut que tu donnes ça à Bertrand parce que pour pas que tu passes pour un Marc, tu peux pas les faire signer par les mains.
Ben non, exactement. C'est parce que moi, je vais être à...
Tu peux pas jouer avec ça.
Je vais être au Wrestle Reunion en fin de semaine pour couvrir l'événement pour le RDS.ca. Et puis, donc, c'est ça. Ça va être un événement très le fun. Et je vais justement poser la question à Jimmy Hart. Je te reviendrai, même si on n'aura pas d'émission. Pat, je vais te revenir avec la réponse parce que moi aussi, ça m'intéresse. D'avoir son point de vue et peut-être il y a peut-être une raison quelconque, il y a peut-être des insides à nous raconter là-dessus. Je pourrais laisser là, les gens savoir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là.
On peut pas passer sous silence non plus l'hommage posthume que la TOW rendra à Dino Bravo avec sa famille qui seront présents.
Effectivement, l'une des plus grandes vedettes de l'histoire du territoire de Montréal, du Québec, Dino Bravo, qui a commencé à lutter dans les années 70, principalement avec lutte Grand Prix. C'est là que connu vraiment ses premiers pas ses premiers balbutiements, mais ses premiers succès, si on peut le dire ainsi, en équipe avec Gino Brito. Par la suite...
Il est en équipe avec Gino Brito?
Oui, a remporté les titres par équipe de Grand Prix, la connexion italienne qu'il se nommait. Et par la suite, bon, quand la lutte au Québec est tombée à plat à la fin des années 70, a commencé à voyager un petit peu partout. dans les années 80, avec la venue de lutte internationale, est revenue ici à Montréal, est devenue la plus grosse vedette de ces années-là, probablement avec les Rougeaux et Rick Martel. Mais bon, Dino Bravo, c'était une petite coche au-dessus peut-être, c'était vraiment spécial.
C'était quoi l'élément déclencheur à la WWF pour que Dino Bravo soit une star? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben en fait, il n'a pas été une si grande star que ça à la WWF. C'est d'ailleurs des discussions que j'ai souvent avec des journalistes ou des experts américains, parce qu'eux autres comprennent pas à quel point Dino Bravo a été important, ou ils voient pas à quel point Dino Bravo, parce qu'eux autres l'ont connu à la WWF dans des, bon, premièrement, c'était, je crois, ses belles années étaient déjà derrière lui, mais même à ça, il y avait un style de lutte qui a pas nécessairement passé si bien que ça aux États-Unis. Il y a des combats entre autres contre Ronnie Garvin, un autre Québécois que les gens disent, ouais, c'était pas fort comme match, mais dans les années 80, principalement à Montréal, il était plus gros que Hulk Hogan. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet-là, Hulk Hogan il y avait un match qui était prévu en 1986, janvier 86, entre Dino Bravo et Hulk Hogan.
À Montréal.
Et Vince McMahon, à la dernière minute, dans les semaines qui ont précédé l'événement, a décidé de changer son fusil d'épaule et de mettre Hogan contre quelqu'un d'autre et Dino Bravo contre quelqu'un d'autre, parce qu'il ne voulait pas qu'Hogan passe second. On parle en 86, c'était quand
parce
même
que
assez
Marc,
récent.
Tu te rappelles quand nous avions apporté des objets souvenirs pendant une émission, Marc Blondin avait apporté un chandail de la WWF avec Dino Bravo, le champion mondial.
Ouais, non, effectivement, puis c'est d'ailleurs, suite au match que je parle en janvier 86, Dino Bravo a refusé de signer avec la WWF et ne signera que 10 mois plus tard, au mois d'octobre, pour un contrat que, bon, il ne pouvait pas refuser, et Gino Brito l'avait bien compris. Bref, Dino Bravo, l'une des plus grandes vedettes, avec probablement Yvon Robert et Johnny Rougeau, là, c'est vraiment une des stars locales qui a le plus attiré. On va lui rendre hommage à la TOW le 5 mai. C'est sa fille Claudia Bresciano qui a accepté généreusement de prendre possession de la plaque qui lui sera remise en l'honneur de son père. Donc, ça va être une première présence pour elle en l'honneur de son père, et c'est vraiment quelque chose qui va être un moment spécial, je pense, pour tous ceux et celles qui vont être présents au Centre Pierre Charbonneau.
Donc, voilà pour ce qui est du TOW9 qui aura lieu le 5 mai prochain au Centre Pierre Charbonneau. Un petit rappel rapide concernant la carte. Nous aurons droit au tout premier Royal Gauntlet. Les pugilistes seront pas Handsome GF, donc t'es pas tout de suite. Tu fais pas partie de ce combat.
Trop big.
T'es trop big. Donc, on parle de Boogly, Green Phantom, Billy Gibson, Darko, Samson, Pat Gannett et... Vous écoutez pas, les gars? El Generico, il est pas là.
Non.
Il en manque un.
Darko? T'as-tu nommé Darko?
Darko.
Green Phantom?
Je vais recommencer, hein. Il y a un blanc.
Écoute.
C'est vrai qu'il y en a un.
Hey, on peut prendre un appel, là.
Ben ouais, ben là.
On peut prendre un appel, là.
Appelez c'est temps parce que ça
achète. Si tu nous poses des questions au piège, avertis-nous d'avance. Ouais.
Mais je pensais que vous la saviez par cœur.
Qui est le lutteur qui manque? On va prendre un appel, là. Peut-être
je peux t'énommer, moi aussi, mais je sais pas c'est lequel qui manque dans ta liste. Je peux t'énommer par cœur, Pat, si tu veux.
Vas-y.
OK, il y a Boogly. Il y a Genesis. Il y a
Genesis qui manquait.
Ah bon, il y a Genesis.
J'aurais pris un appel
bon,
en place.
Et voilà.
On n'a pas de billets à faire tirer cette fois-là. Donc, il y aura le combat par équipe entre le Mass Destruction qui est... Mais toi, c'est quoi le nom que tu aurais donné à cette équipe-là?
On est obligé d'avoir un nom, et si oui, ben un meilleur que celui-là. J'y ai pas encore passé, j'ai pas vraiment brainstormé là-dessus. Mais Mass Destruction, c'est ça?
Oui.
Oh boy. En tout cas, écoute,
c'est bon. Moi, je trouve ça bon.
Ben, tant mieux.
Face à la tabarnak de team entre Mathieu Saint-Jean.
Mais ils sont mieux connus sous le nom des mâles.
Ben,
moi, je préférais les mâles.
Moi, je préfère TDT qu'être obligé de le dire au complet, tabarnak de team. Il semble que sur un poster, ça passe moins.
On va avoir un ticket à cause.
Je préfère les mâles, moi.
Moi, je pouvais le dire, mais pas toi. Ah. C'était une fois, on peut l'échapper, mais pas deux fois.
Bon.
Ensuite, l'idole à Handsome GF, Sexy Eddie, qui va affronter.
Mon idole?
Ben oui, c'est ton idole.
Mais je l'aime beaucoup, Sexy Eddie. Pouvoir lutter en équipe avec lui, un très bel homme.
Très bel homme.
Très bien huilé aussi, hein. Moi, je respecte beaucoup les lutteurs qui suillent.
Parce que bien souvent, t'as pas, depuis un certain temps, t'as pas d'huile, hein, backstage. Ça te prend la bouteille des autres.
Effectivement, mais on parlait avec Chris Masters tantôt qu'il va peut-être appliquer le Master Lock à Sexy Eddie, mais il va falloir qu'il se méfie de l'huile que Sexy Eddie porte, hein, parce que ça peut glisser.
C'est vrai. Ensuite, on aura l'hommage posthume, justement, à Dino Bravo. Nous allons avoir droit à un match très intéressant, la ROH face à la WWE, en l'occurrence Kevin Steen face à Sylvain Grenier. Comme Pat Laprade l'a dit tout à l'heure, c'est déjà en liste pour être quasiment un match de l'année, même si ça n'a pas encore eu lieu. Il restera à voir la chimie entre les deux lutteurs. On aura droit également à un massacre de une minute, c'est-à-dire Vader face à Handsome GF.
Non, mais je pense que je vais l'épargner pour deux minutes, là.
Pourquoi? Hey, juste de donner des frissons.
Je suis prêt, Pat, je te dis.
Tu vas l'entendre deux fois, cette chanson-là.
En l'espace de cinq minutes.
Non. Là, vous vous sous-estimez, messieurs et madame.
Patricia, dis rien, parce que je pense qu'elle prend pour toi.
Non, mais t'as pas écouté la semaine dernière?
Oui, je sais. Tu prends pour moi.
Ben, je suis peut-être une des seules, une des là, seules, mais j'ai confiance en toi, GF.
Ouais, on Serge Coutu qui est sûrement avec
toi. On voit les connaissances de lutte de Patricia ici.
Et puis on aura en finale Frankie the Mobster qui va affronter le gagnant du Royal Gauntlet. Côté carte, si tu donnes une note sur 10.
Ben écoute, c'est une belle carte, moi je crois. Écoute, je peux pas te donner une note sur 10 pour une carte, mais c'est une belle carte. Il y a beaucoup de potentiel. Moi, il y a deux matchs qui, je pense, pourraient voler la vedette. Chris Masters contre Sexy Eddie, Sylvain Grenier contre Kevin Steen. Je vais avoir une grosse soirée occupée, Patrice. Je vais couvrir l'événement pour RDS, Slam Wrestling, le Pro Wrestling Illustrated, qui est très intéressé par le match. Ben, pas à cause de GF, mais à cause de Vader. Parce que Vader, il lutte pas si souvent que ça. Et ils m'ont déjà donné le mandat de m'assurer d'avoir une photo à leur donner au Pro Wrestling Illustrated. Tu pourrais... peut-être GF,
même si tu
faire
sors les
tes
pieds
débuts
par...
dans
moi,
le PWI.
Même si tu sors par les pieds par en avant, tu vas quand même avoir ton moment de
gloire. Ben oui, je garantis que mon match, comme mon match contre Jim Duggan avait été le meilleur sur ce show-là, que mon match contre Vader va être le show stealer de cette soirée.
Sans farce, Patrice, une belle carte. Je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Et oui, j'espère que la foule va répondre... à cette belle carte-là et qu'on va être plusieurs à assister au gala au Centre Pierre Charbonneau. Le retour de la TOW au Centre Pierre Charbonneau après un bon bout de temps.
Ouais. Avant le gala aura lieu le FanFest. Patricia, oui. Tu veux m'en glisser un mot?
Oui, de 17h à 19h, les vrais fans de lutte vont pouvoir rencontrer les lutteurs, donc la plupart des lutteurs de la TOW, ainsi que les lutteurs vedettes. Vader, Jimmy Hart, Chris Masters, Handsome GF.
Est-ce que ça va aller les autographes? Ah ouais?
Est-ce la dernière fois, j'ai signé, là, je pense, au-dessus de 600 autographes.
Mm-hmm. T'as-tu signé des belles valeurs? Ou
Non, ça m'en manquait.
Patricia, est-ce que je me trompe ou ça va être animé par Benoît Cossette?
Benoît Cossette, oui, de Énergie.
Oui, très, très bon animateur.
On va avoir différents kiosques. Il va y avoir des jeux d'adresse. Il va avoir... on voudrait avoir un kiosque de TOW Radio Show. Donc, les auditeurs vont pouvoir nous poser des questions.
Ah! Apporter des suggestions également.
Ouais. Ah, ben, je vais aller faire mon tour au kiosque.
Avoir plus ou moins souvent Sam GF qui appelle, qui nous interrompt. Tu nous as interrompu pendant un bon 8 semaines consécutives.
Ouais. C'était 6 semaines de trop, hein, ça.
Puis Marc, il nous a dit, c'est drôle, hein, avec TOW9, eh bien, les espoirs entre Sam GF et Versus Sly, ça, c'est. Évaporé.
Mais je pense que c'est Sylvain qui veut se sauver de ce combat-là. Là. Mais si on pourra en reparler à 10h57 et 36 secondes, je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler.
Non, on n'a pas le temps d'en parler.
Oui. Donc, les billets sont en vente au www.centrepierrecharbonneau.com via le réseau Ovation. Donc, vous pouvez procurer vos billets dès maintenant.
Merci beaucoup, Patricia. Donc, c'est le FanFest pour le TOW9 qui aura lieu le 5 mai prochain. Ben écoutez, je l'avais promis... à Jean-François Kelly pour terminer.
Ah, voyons donc.
Ben oui.
Un bon vieux Rick Astley. Écoute, j'ai les yeux pleins d'eau pour citer mon bon ami GF.
Exactement, mais j'aurais pas les yeux pleins d'eau parce qu'ils sont secs à cause de mes verres de contact que j'ai en ce moment. Donc, je veux remercier tout le monde d'avoir participé en si grand nombre également, mais avoir été fidèle pendant 26 semaines pour le TOW Radio Show. Merci beaucoup, Patricia.
Merci, Pat.
D'avoir été là trois quarts du show.
Trois quarts du show. Puis merci. On a eu... Ben, moi, je reçois beaucoup de commentaires de l'animateur puis des chroniqueurs aussi. Hein.
C'est moi qui t'ai fait les commentaires.
Comment?
Tu reçois beaucoup de...
Je reçois des commentaires sur Facebook puis aussi dans mon adresse courriel.
Ah, c'est good.
Donc, puis c'est ça. T'es un excellent animateur, Pat.
Ben, c'est pas que je suis bon, c'est le fait que j'ai une bonne équipe, une bonne chimie, puis ça se fait bien. Merci beaucoup d'avoir participé.
Merci, Pat.
Pat Laprade, ça a pris du temps, mais on a fini par s'accepter.
Écoute, Patrice, je te remercie beaucoup de m'avoir pris dans ce projet-là. J'ai adoré mon expérience. Puis, écoute, au nom peut-être de tous les chroniqueurs, parce que, bon, moi, Sly, Marc, Patricia, on n'a pas toujours été fiables à 100%, pas toujours là à chaque semaine. Toi, t'as tenu le fort, Patrice. T'étais là chaque semaine, chroniqueur ou pas.
Un guerrier.
Puis, écoute, un guerrier. Puis, félicitations pour le beau succès. Puis, on souhaite tous que ça va revenir à l'automne.
T'as 20 secondes, Handsome GF. Oh.
J'invite tout le monde le 5 mai à venir voir la destruction de Vader. Si vous voulez des billets, vous pouvez passer par le réseau Ovation ou me contacter sur Facebook pour que je fasse une cote sur les ventes. Donc, Jean-Frédéric Clément sur Facebook.
Mais pour moi, ben, je vous remercie beaucoup. On se revoit à TOW5 pendant le FanFest.
À TOW5?
Hein? Le 5 mai, TOW9. Dernier show, fallait que je botte. Je suis désolé. Ciao.
Ciao.